les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La pratique de la transe dans les sociétés traditionnelles a fait l'objet de publications scientifiques innombrables depuis les premiers contacts des Européens avec ces sociétés. Ce phénomène revêt des formes très variées. On parlera tantôt de rituels chamaniques, tantôt de possession. À chaque fois, il s'agit bien d'atteindre des états modifiés de conscience pour connaître une réalité inaccessible aux non-initiés. Et ce passage dans un autre monde se réalise dans l'immense majorité des cas par l'utilisation de la musique. C'est au son du tambour que le chaman de Mongolie entre en transe. La musique joue le même rôle pour les initiés des confréries soufis. Mais comment cette musique se fraye-t-elle un chemin jusqu'au tréfonds de l'âme? Est-ce que ces notes sacrées nous atteignent, quelle que soit notre culture? Ce point est très débattu entre les spécialistes, et c'est ce qui rend passionnante l'émission que vous allez entendre avec l'ethnomusicologue Gilbert Rouget, disparu en 2017. Selon lui, la capacité de la musique sacrée à nous relier à d'autres niveaux de réalité dépendrait étroitement du contexte culturel. Tout humain ne serait pas transporté de la même manière par la musique des cimes métaphysiques. C'est donc d'abord en comprenant le contexte culturel que le rapport au sacré d'une société s'éclaire. Écoutons sans plus attendre cette émission de Roland Auguet avec Gilbert Rouget dans La matinée des autres, musique et possession.
La matinée des autres, musique et possession, par Roland Auguet, avec Gilbert Rouget.
Première plage, Venezuela, scène de guérison. Le chaman suce le patient pour extirper la maladie. Il parle en transe, le cœur répond. Deuxième plage, Sibérie. Le chaman bâille, les esprits le pénètrent, il raconte son voyage dans l'au-delà. Troisième plage, terre de feu, femme chaman. Elle affirme sa puissance magique face à un autre chaman. 4, Brésil, candomblé. 5, danse de possession son rail. 6, Bénin, chant d'appel de Xango, dieu de la foudre.
Beaucoup ne distinguent pas entre transe et extase, et je pense qu'il est indispensable de le faire au départ. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous ne parlerons pas ce matin, ou presque pas, d'extase, parce que l'extase est, pour ce qui m'intéresse, dans des relations très particulières avec la musique, en sens qu'on peut dire que, si on accepte ma définition de l'extase à laquelle je vais revenir dans un instant, l'extase et la musique sont incompatibles. Trance et musique sont dans des relations très étroites, extase et musique sont dans des relations de quasi-incompatibilité. Alors, venons-en tout de suite à cette distinction fondamentale. Pour moi, la transe est un phénomène qui est lié à l'agitation, la surstimulation, la compagnie, la convivialité, la musique, la danse, l'extraversion, je dirais en général, tandis que l'extase est pour moi lié à la solitude, à l'immobilité, à la privation ou à la déprivation, comme on dit souvent, sensorielle, à une certaine forme de d'ascétisme poussé à l'extrême, une certaine négation de la sensorialité. Et l'extase, en plus de cela, n'est généralement pas liée à des phénomènes d'identification avec le Dieu, tandis que la transe est très souvent liée à des phénomènes d'identification avec le Dieu. Pas toujours, puisqu'il y a des transes identificatoires et des transes qui ne le sont pas, ou du moins des possessions identificatoires et des possessions qui ne le sont pas. Mais enfin, vous voyez qu'il y a là une série de traits qui peuvent servir à distinguer assez nettement l'extase de la transe. Je dirais par exemple que le modèle même de l'extase, pour moi, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui, dans le Carmel, recherchait la solitude, qui atteignait à l'extase dans le silence, dans l'immobilité, et dans la macération de la chair, peut-on dire, alors que la possession, ou le modèle de la transe de possession, c'est la possession telle qu'on la pratique en Afrique, qui est une affaire éminemment collective, bruyante, accompagnée de danse, de musique, de bruit, de consommation de nourriture, de grands débordements. Et l'autre pôle de la transe étant non pas la possession mais le chamanisme, et le chamanisme est également quelque chose qu'on se représente généralement comme bruyant, agité, donnant lieu à de grands débordements corporels. La transe, disons que la transe religieuse, j'entends, elle se manifeste suivant deux grandes formes qui géographiquement ne se recoupent généralement pas. Deux grandes formes qui sont la possession d'un côté, le chamanisme de l'autre. Le chamanisme, c'est le mot chaman, le mot chamanisme, chaman, est emprunté aux Tungus, qui sont une population de la Sibérie orientale. Et le mot même est lié à l'idée de danser, chanter, s'agiter. Au niveau même de l'étymologie, il y a cette idée de relation directe avec, disons, la musique. Mais le chamanisme, qu'est-ce que c'est essentiellement, du point de vue des représentations religieuses qui s'y rattachent? Le chamanisme, à mon sens, c'est essentiellement un voyage, un changement de monde. Le chaman est quelqu'un dont l'âme vagabonde, suivant toute une idéologie, bien entendu, qui ne lui est pas propre, qui est propre à son groupe culturel, à son ethnie. Le chaman est quelqu'un qui entre en transe en vue, notamment, ce n'est pas sa seule fonction, mais c'est une fonction essentielle en général, en vue notamment de se rendre dans le pays des morts pour y accompagner l'âme d'un mort. Le chaman, c'est essentiellement un psychopompe, celui qui conduit l'âme dans le pays des morts. Et cette conduite de l'âme dans le pays des morts, c'est évidemment un voyage, il change de monde. La possession, c'est tout à fait différent. La possession, ce n'est pas un changement de monde, c'est un changement d'identité. La possession, enfin une certaine possession, parce que nous reviendrons sur le fait que la possession a plusieurs aspects. Mais la possession, telle qu'on la pratique, disons encore une fois en Afrique, pour simplifier les choses, c'est essentiellement un changement d'identité, en ce sens que la personne possédée n'est plus elle-même. La personne qui est en transe et qui, par la voie de la transe, entre dans un état de possession, n'est plus elle-même. C'est la divinité qui se substitue à sa personnalité habituelle, et la personne s'identifie à cette divinité. Pour prendre un cas précis, par exemple, en Afrique, il y a un certain nombre de cultes de possession où une des plus importantes divinités du culte est le dieu de la foudre. C'est Dongo, pour parler de la religion des Sonrailles que nous connaissons à travers les films de Jean Rouch. Dongo, chez les Sonrailles, au Niger, c'est le dieu de la foudre. Et les gens saisis par le dieu de la foudre s'identifient au dieu de la foudre, ont un comportement qui rappelle celui du dieu de la foudre. Ce sont des personnages terribles, écumants de fureur, et on s'adresse à eux comme s'ils étaient véritablement le dieu de la foudre. D'autres seront au contraire possédés par une divinité lascive, par exemple. Minaudrons auront des comportements provoquants et s'identifieront avec une divinité dont la mythologie dit que c'était une divinité lascive. Donc la possession, celle dont je parle en ce moment-ci, est essentiellement un changement d'identité. Le chamanisme, c'est essentiellement un changement de monde. Cette grande distinction-là qu'il importe de faire, me semble-t-il. Et alors, cette distinction-là retentit sur les relations avec la musique, parce que, là j'en viens à ce que vous disiez il y a un instant, trans-induite, trans-conduite, c'est la distinction que je propose pour marquer le fait que dans le chamanisme, essentiellement c'est le chaman qui provoque sa propre entrée en transe, tandis que dans la possession, essentiellement aussi, c'est la société qui provoque l'entrée en transe du possédé, ou du moins c'est le groupe constituant le milieu où se produit la transe, c'est le groupe qui est responsable de l'entrée en transe du possédé. Le possédé entre en transe en entendant de la musique qu'on fait pour lui, en vue de le faire entrer en transe, tandis que le chaman entre en transe en faisant sa propre musique, et il est, je dirais, puisqu'il fait sa propre musique, le musicant de son entrée en transe, tandis que le possédé, pour lequel on fait de la musique, est le musiqué. Si l'on veut bien reprendre l'usage du mot musiqué, qui était un mot d'emploi tout à fait courant au XVIIIe siècle, Rousseau l'a employé je ne sais combien de fois, Diderot l'employait aussi, on disait couramment « nous allons musiquer, nous avons musiqué, nous musiquerons, nous avons bien musiqué ». Et c'était un verbe transitif. Et je pense que nous aurions bien tort de nous priver de l'emploi d'un verbe qui est bien pratique, car après tout, faire de la musique et musiquer n'est pas la même chose à mon sens.
Un matin, le chaman commence son chant. Et s'adressant aux morts, lui conseille de bien manger, mais de boire peu car le voyage de l'enfer est extrêmement difficile pour un homme ivre. Au coucher du soleil, on fait les préparatifs du départ. Le chaman chante, danse et barbouille son visage avec de la suie. Il invoque les esprits auxiliaires et les prie de les guider dans l'au-delà, lui et le défunt. Il quitte quelques instants la yourte et monte sur un arbre à entaille. De là, il voit le chemin de l'enfer. En rentrant dans la yourte, il appelle à son aide deux puissants esprits protecteurs. Butchu, sorte de monstre à un seul pied et à figure humaine avec des plumes, et Kohori, oiseau à long cou. Sans l'aide de ces deux esprits, le chaman ne pourrait point revenir de l'enfer. La partie la plus dure du chemin de retour, il l'a fait assis sur le dos du Kohori. Après avoir chamanisé jusqu'à l'épuisement, le chaman prie les esprits d'atteler les chiens au traîneau et il demande aussi un valet pour lui tenir compagnie pendant le voyage. Quelques instants plus tard, il est parti vers le pays des morts. Les chants qu'il entonne, les paroles qu'il échange avec le valet permettent de suivre son itinéraire. Ils sont arrivés aux enfers. Immédiatement, les morts se rassemblent et demandent au chaman son nom et celui du nouveau venu. Le chaman se garde bien de dire son véritable nom. Il cherche parmi la foule des esprits les plus chers parents de l'âme qu'il amène pour la leur confier. Il s'empresse ensuite de regagner la terre et, une fois revenu, raconte longuement ce qu'il a vu au pays des morts.
La transe n'est pas nécessairement liée avec des phénomènes religieux, encore que ce soit le plus souvent le cas, tout au moins dans un très grand nombre de civilisations. Les Arabes sont peut-être, de tous les peuples du monde, ceux qui présentent l'éventail le plus riche en fait de variété de transe. On trouve chez les Arabes la transe religieuse sous une forme tout à fait caractéristique, c'est la transe des soufis, des adeptes du soufisme. Transe qui, entre parenthèses, se présente sous des aspects très différents suivant la secte soufie ou suivant la confrérie plutôt soufie à laquelle nous avons affaire. Et puis il y a à côté de cette transe religieuse une transe profane qui porte un autre nom. En général, on parle de wajd quand on parle de trans soufi et on parle de tarab lorsqu'on parle de trans profane. Ça n'est pas toujours le cas. Je ne crois pas qu'on parle jamais de wajd lorsque c'est de la trans profane, mais il arrive que le mot tarab, qui veut dire en fait excitation, émotion liée le plus souvent à la musique, il arrive que le mot tarab désigne la trans religieuse. Eh bien, chez les Arabes, cette transe émotionnelle, profane, liée exclusivement à la musique, est un phénomène extrêmement courant. C'était un phénomène de pratique tout à fait courante encore au siècle dernier. Ça l'est moins maintenant. Mon ami et collègue Sherazade Kassim Hassan, qui est une musicologue irakienne qui s'est beaucoup intéressée à ces phénomènes, me disait récemment que les conduites de tarab, les conduites de transe musicale, d'émotion musicale, deviennent maintenant relativement rares en ville, mais restent tout à fait fréquentes dans les campagnes irakiennes. Et chez les Arabes, la transe émotionnelle, profane, liée à la musique, est si profondément liée à la musique que le mot tarab, qui désigne cette émotion musicale se traduisant par la transe, a donné naissance au mot mutrib ou mutriba, mutrib étant le masculin, mutriba le féminin, pour désigner le musicien. Le musicien, mutrib, ou la musicienne, mutriba, c'est littéralement celui qui fait entrer en transe, ou celui qui, pour prendre un vocabulaire moins marqué, celui qui suscite l'émotion musicale chez l'auditeur. Par exemple, la fameuse chanteuse Om Kalsoum, dont on a vendu des millions de disques, était une mutriba, et il était fréquent qu'au cours des concerts de Om Kalsoum, les femmes entrent en transe, se mettent à crier, s'évanouissent, tombent par terre, perdent connaissance, et des conduites de transe tout à fait caractérisées, et semblables tout à fait, quant à leur comportement extérieur, à ce qu'on peut voir par exemple dans une cérémonie religieuse chez des Noirs d'Harlem, où les femmes entrent également en transe avec des manifestations assez comparables. Mais là, nous sommes dans la transe religieuse, alors que dans un concert d'Om Kalsoum, nous sommes dans la transe profane.
Pendant que Jamila chantait, tous ceux de l'assemblée furent saisis par le tarab. Ils se mirent à claquer des mains, à battre en cadence le sol de leurs pieds, à balancer leur tête en criant « Nous nous offrons un sacrifice pour toi, ô Jamila, pour te protéger de tout mal, comme ton chant et tes paroles sont sublimes. » Quant au poète Umar, il se mit à crier « Malheur à moi, malheur à moi !» Il déchira sa tunique de haut en bas, dans un état d'inconscience totale. Revenu à lui, il se sentit tout honteux et se mit à s'excuser en disant « Par Allah, je n'ai pu me contenir, car cette belle voix m'a fait perdre l'esprit. » Les autres commensaux lui répondirent « Console-toi. Il en est advenu de même pour nous, et nous nous sommes évanouis. Mais nous n'avons pas déchiré nos vêtements. »
Je m'étais posé la question suivante, est-ce que la musique est indispensable à ces rites de possession parce qu'elle a une vertu particulière qui est celle de déclencher la transe? Et dans ce cas-là, comment expliquer cette vertu, ce pouvoir particulier qu'aurait la musique? Et je m'étais posé la question dans ces termes-là, quelle serait l'action psychophysiologique de la musique dans les phénomènes de transe, pensant que, effectivement, au niveau physiologique, il devait se passer quelque chose. Et je pense maintenant que la tentation qui est de chercher une explication simple aux relations de la musique et de la transe, cette tentation-là, beaucoup de gens y sont tombés, c'est une tentation qui s'explique, mais c'est une tentation diabolique, et justement, il importe de s'en garder. Je crois qu'il n'y a pas de rapport simple du tout entre la musique et la transe, contrairement à ce que beaucoup ont écrit. Je crois que ce sont des rapports extrêmement compliqués. Je crois que pour simplifier les choses et recourir à la grande distinction lévi-straussienne entre culture et nature, les relations de la musique et de la transe ne sont pas de l'ordre de la nature, elles sont de l'ordre de la culture. Je crois qu'elles varient complètement, totalement, du tout au tout, suivant les cultures avec lesquelles on a affaire, suivant les formes de transe auxquelles on a affaire, et non seulement suivant les formes de transe auxquelles on a affaire, mais également, et ça c'est essentiel, suivant le moment du culte, lorsqu'il s'agit de transe religieuse, suivant le moment du culte où l'on se trouve. Mais comment s'explique ce pouvoir? Eh bien, il s'explique, certains l'ont expliqué, certains ont voulu y voir un phénomène de réflexe conditionné. Ça a été notamment le cas de Herskovitz, le grand ethnologue américain. Herskovitz, qui est certainement un grand ethnographe, a étudié donc des religions à trans au Dahomey, et puis il les a ensuite étudiées au Brésil, et finalement il a proposé une théorie des relations de la musique et de la trans fondée sur le réflexe conditionné. Pour lui, il s'agit d'un réflexe conditionné qui a été monté petit à petit au cours de l'apprentissage de la trans dans les institutions où l'initiation se fait, et la musique fait rentrer les gens en transe un peu comme le signal fait baver le chien de Pavlov. C'était une théorie assez tentante, bien sûr, très culturelle, qui dans l'esprit d'Herskovitz lui-même d'ailleurs s'opposait aux théories précédentes qui consistaient à voir dans la musique une action magique faisant tourner la tête des gens agissant au niveau neurologique et déterminant chez ceux qui l'entendent une sorte d'hallucination sonore, une sorte de saturation générale de l'appareil auditif, expliquant qu'on perde les pédales, si l'on peut dire, et s'expliquant par une vue, disons, pathologique de la transe. La transe était vue par ceux qui ont étudié ces choses-là au Brésil au début du siècle comme un phénomène d'hystérie, tout à fait comparable à ce que décrivait Charcot à l'époque. Et cette hystérie-là, pour eux, était produite, entraînée par un débordement de musique frénétique, un vacarme effroyable, entraînant une déspatialisation de la part de l'auditeur. Et c'était en gros donc une théorie naturelle de l'effet de la musique. La musique aurait un pouvoir physique, les sons auraient un pouvoir physique, comme disait Rousseau. Et puis est arrivée cette théorie de Herskovitz parlant de réflexes conditionnés, qui était assez tentante, bien entendu. Roger Bastide, qui a travaillé un peu dans les mêmes régions que Herskovitz, Roger Bastide qui est mort il y a quelques années et qui est connu pour ses travaux sur les religions brésiliennes, lui a considéré avec raison que la théorie du réflexe conditionné ne tenait pas tout à fait bien parce que, en fait, c'était la situation globale qui jouait. C'est-à-dire que la même personne, entendant le même air, mais ne se trouvant pas dans des circonstances propices, n'entrait pas en transe. Donc, on ne pouvait pas parler d'une relation de cet ordre-là. Il y avait autre chose qui entrait en ligne de compte. D'autres ont renoué avec la théorie naturelle du pouvoir physique des sons et notamment un Américain. Un Américain neurophysiologue a exposé aux alentours de 1962 ou 3 une grande théorie sur les effets physiologiques du tambourinage. Oui, cet Américain, pour l'appeler par son nom Neher, a cru pouvoir rendre compte des relations de la musique et de la transe en faisant des expériences de laboratoire avec l'idée tout à fait naïve que le tambour avait un effet véritablement neurophysiologique et que si c'était comme ça dans les cérémonies, on devait pouvoir produire les mêmes effets en laboratoire. Alors, en laboratoire, il a essayé de produire ces effets en faisant tambouriner sur un tambour de peau, un peu comparable à ce qu'on utilise dans les cérémonies de possession africaine. Et son expérience était dérivée d'une constatation qui est que des stimulations lumineuses, cette fois, mais pas sonores, périodiques, déterminaient chez ceux qui y étaient soumis des crises d'épilepsie en rapport avec le fait que si ces stimulations lumineuses sont de même fréquence que le rythme alpha, les ondes lentes du cerveau, si vous voulez, il se produit une espèce de mise en phase des deux phénomènes, un phénomène que les Américains appellent de driving et qu'en français on appelle d'entraînement, qui produit donc des perturbations cérébrales, centrales, nerveuses, centrales, et aboutissant à l'épilepsie. Et entre parenthèses, Neher ne s'est jamais posé le problème de savoir si l'épilepsie et la transe étaient la même chose. Pour lui, dans sa vague approximation, il s'agissait de conduites, dit-il, inhabituelles. Ou, comme dirait un certain nombre d'Américains maintenant, d'états de conscience altérés. Altered state of consciousness. Bon. Vous voyez que c'est une théorie qui va assez loin, enfin une théorie tout à fait globale des choses. Alors, j'ai regardé, bien entendu, les protocoles d'expérience publiés par Neher, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait vraiment un peu trop long. On s'aperçoit que ça ne tient pas du tout debout, que ça n'est pas du tout sérieux, que le fameux rythme alpha, dont la fréquence oscillerait entre 11 et 13 périodes par seconde, d'après les expériences de Neher, ce rythme alpha entrerait en phase avec des rythmes tambourinés qui, eux, varieraient entre 4 périodes secondes et 25 périodes secondes, ce qui montre bien que la relation ne peut pas être conçue de cette manière. Et puis, prenons l'affaire d'un autre bout, si vous voulez. Logiquement, si on considérait que l'action du tambour s'exerçait de cette manière-là, toute l'Afrique serait en transe du matin au soir, étant donné que l'éventail des tempis couvert par cette relation d'après Neher, couvre à peu près tous les mouvements, du plus lent au plus rapide. Alors, dans la logique de son système, dès qu'on entend un rythme de tambour, on devrait entrer en transe, ce qui est évidemment dément. Mais cette théorie a été prise très au sérieux. Elle a été prise très au sérieux par des quantités de gens très sérieux. On la trouve reprise sous la plume de beaucoup d'ethnologues qui considèrent que c'est la théorie maintenant reconnue en général. Elle le marche d'autant moins, cette théorie, que bien qu'effectivement les faits montrent que très souvent les phénomènes de transe sont associés au tambour, en réalité, une observation un peu rigoureuse des faits montre que la transe est au moins aussi souvent associée à d'autres instruments de musique, et puis qu'elle est aussi associée à la voix et pas du tout à des instruments, qu'enfin elle est associée parfois bien sûr à de grands déchaînements sonores, mais qu'il arrive aussi fréquemment qu'elle soit associée à des musiques extrêmement discrètes, et par conséquent que la relation entre le tambour et la transe est une relation qui est du type même de la fausse observation scientifique. C'est vrai que souvent elle est en rapport avec une musique où intervient le tambour, mais il est également vrai que les musiques où intervient le tambour ne donnent pas lieu à la transe dans un très très grand nombre de cas.
Les musiciens, dans une offrande musicale passionnée, approchaient leurs instruments de son oreille. Durant la phase au sol, nous vîmes une fois la tarentulée ramper jusqu'au pied du violoniste et là, s'attarder comme si elle était hypnotisée. Le violoniste s'agenouilla alors auprès d'elle, l'enveloppant de sa musique à tel point que son archet semblait avoir pour violon le corps frémissant de la femme.
Prenons les choses un petit peu systématiquement, si vous voulez. Je dirais que pour ce qui est de la transe émotionnelle, c'est le contenu émotionnel de la musique qui déclenche les phénomènes de transe. Alors, ce contenu émotionnel de la musique, il est, c'est du moins ce que montrent les textes et l'expérience et l'observation des faits, ce contenu émotionnel, il est essentiellement lié au sens. Et non pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au caractère frénétique de la musique. Prenons un cas de transe émotionnelle tout à fait caractéristique, qui est celui dont parle Rousseau dans le dictionnaire de la musique lorsqu'il parle du Ranz des Vaches. Dans le dictionnaire de la musique, Rousseau nous dit que dans les troupes suisses, il était interdit de jouer le Ranz des Vaches, car les soldats suisses, en entendant cet air, en perdaient le boire et le manger et se laissaient mourir de tristesse tant cet air leur rappelait leur pays d'origine. On a tendance à sourire un peu quand on lit ces descriptions de Rousseau, qui en parle très finement, bien entendu. Mais enfin, c'est là le type même de la transe émotionnelle provoquée par la musique, mais par une musique qui, et Rousseau le fait bien remarquer lui-même, bien entendu, une musique qui n'a en elle-même aucune espèce de vertu particulière. Elle rend le malheureux soldat helvétique malade de nostalgie pour son pays natal parce qu'elle est liée à son enfance et parce qu'elle a, pour le soldat suisse, le pouvoir d'évoquer avec une grande vivacité, une grande intensité, ses souvenirs de jeunesse. Mais pour celui qui n'est pas helvétique, la même musique n'a rigoureusement aucun effet, bien entendu. Le pouvoir physique des sons, la question du pouvoir physique des sons, est un problème qui a beaucoup intéressé Rousseau. Et il est intéressant de se dire que lui-même a varié sur ce problème du tout au tout, puisque, à propos du tarentulisme, c'est-à-dire à propos de ces phénomènes de transe qu'on observe notamment, surtout en Italie du Sud, dans les Pouilles. Le tarentulisme, rappelons-le, c'est essentiellement une manifestation religieuse qui est un phénomène de possession et qui tourne autour du fait que le possédé attribue sa transe à la piqûre d'une tarentule, d'une araignée, et en est guéri en dansant la tarentelle, disons pour simplifier beaucoup les choses. Et bien, le tarentulisme, on en parlait beaucoup au XVIIIe siècle, Rousseau s'y était beaucoup intéressé, et il est amusant de voir que lui-même, qui se passionnait beaucoup pour cette question du pouvoir de la musique, a complètement changé d'avis au cours de son existence, puisque on lit dans le dictionnaire de la musique ceci: si notre musique a peu de pouvoir sur les affections de l'âme, en revanche, elle est capable d'agir physiquement sur les corps, témoin l'histoire de la tarentule, trop connue pour en parler ici. Si donc Rousseau écrit ceci sur le tarentulisme dans son dictionnaire de musique, il écrit quelques années plus tard, une dizaine d'années à peu près, tout à fait le contraire, puisque dans l'essai sur l'origine des langues, on lit ceci: on cite, en preuve du pouvoir physique des sons, la guérison des piqûres des tarentules, cet exemple prouve tout le contraire. Il ne faut ni des sons absolus, ni les mêmes airs pour guérir tous ceux qui sont piqués de cet insecte. Il faut à chacun des airs d'une mélodie qui lui soit connue et des phrases qu'il comprenne. Il faut à l'italien des airs italiens, au turc il faudrait des airs turcs. Chacun n'est affecté que des accents qui lui sont familiers, ses nerfs ne s'y prêtent qu'autant que son esprit les y dispose. Il faut qu'il entende la langue qu'on lui parle pour que ce qu'on lui dit puisse le mettre en mouvement. Les cantates de Bernier ont, dit-on, guéri de la fièvre un musicien français, elle l'aurait donné à un musicien de toute autre nation. voyez que Rousseau prend la position tout à fait clairement contre l'effet physique des sons. Et vous voyez que Neher, dont je vous parlais il y a un instant, a au contraire repris la théorie tout à fait inverse, qui était une théorie du pouvoir physique des sons. Et on peut dire qu'en ce moment-ci, enfin dans notre monde contemporain, la plupart des gens qui s'occupent de ce genre de choses tendraient plutôt à être du côté de Neher et du pouvoir physique des sons. Et moi, au contraire, je suis tout à fait du côté de Rousseau, et je pense, comme lui, que tant qu'on ne voudra considérer les sons que par l'ébranlement qui s'excite dans nos nerfs, on n'aura point le vrai principe de la musique et de son pouvoir sur les cœurs.
Donc, le son est inséparable d'un langage, d'un ensemble de signes qui sont autour, en somme.
Je crois, très exactement, que le son constitue un ensemble dans un système de signes, et que la transe n'est pas un phénomène naturel, que c'est un phénomène culturel, et qu'en tant que tel, il constitue un système de représentation, et que la musique, là-dedans, fonctionne comme un élément de ce grand système, et que suivant qu'elle s'y intègre d'une manière ou d'une autre, les relations qu'elle a avec la transe sont différentes. Lorsqu'on a affaire à de la possession au sens que je serais tenté de dire strict, c'est-à-dire à la possession identificatoire, qui consiste donc, pour les zélateurs du culte, à s'identifier à la divinité, à penser que c'est la divinité qui se substitue à sa personne, la musique a essentiellement pour fonction d'être identificatoire. Et nous avons affaire précisément à ces airs qui permettent au public qui est là, car la possession est, comme le disait Léris, je le rappelle, un phénomène essentiellement théâtral et qui, comme tout phénomène théâtral, a besoin d'un public. Le public qui est là connaît l'air et reconnaît par conséquent que le possédé est possédé par telle ou telle divinité. Le possédé, possédé par telle ou telle divinité, en adopte le comportement. L'air en question lui permet de s'identifier publiquement avec le responsable imaginaire de sa transe, lui permet de danser et de s'exprimer comme le veut la représentation qu'on se fait généralement de la divinité, se conduire comme un serpent lorsqu'on est possédé par un serpent, ou danser comme une araignée lorsqu'on est piqué par une tarentule. C'est le cas qu'on observe dans le tarentulisme. Et la musique leur permet donc de vivre publiquement ce changement de personnalité, et ce changement de personnalité leur permet de vivre et d'extérioriser très profondément, très frénétiquement quelquefois, des conduites de troubles intérieurs. C'est ainsi que s'explique, à mon sens, la grande fonction thérapeutique de la transe de possession. Transe de possession qui n'a pas toujours, d'ailleurs, une dimension thérapeutique, comme dirait Zimpleni. La possession pouvant être, dans beaucoup d'autres cas, un pur et simple phénomène de piété religieuse qui est sans rapport avec la maladie ou sans rapport avec la pathologie du tout. C'est le Dieu qui choisit de s'incarner dans telle ou telle personne, ou du moins tel est l'imaginaire religieux, la représentation religieuse qui a cours. Donc dans la possession, nous avons affaire, pour ce qui est de l'individu, à une conduite de soumission. Et il est tout à fait remarquable de voir que les relations avec la musique sont parallèles, sont homologues, en ce sens que de même que l'individu ne choisit pas de se vouer à tel ou tel dieu, de même, dans le cours d'un culte, c'est le groupe qui détermine le moment de l'entrée en transe. C'est le groupe qui, en choisissant tel air ou tel autre, amène telle ou telle personne en transe, ou au contraire, en amène une autre en transe. Mais bien sûr, dans la réalité, il y a interaction entre les deux. C'est-à-dire, une personne sera plus prédisposée à entrer en transe tel jour, et les officiants du culte, voyant que telle personne est plus qu'une autre prête à entrer en transe, favorisera l'entrée en transe de cette personne. Mais, de toute manière, ce sont les musiciens en accord avec l'officiant qui déterminera l'entrée en transe de telle ou telle personne. La musique agit donc comme le moyen d'action du groupe sur la personne. Et c'est en quoi la personne dans la possession est toujours musiquée. Elle n'est jamais musicante parce qu'elle est passive. Tandis que dans le chamanisme, je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait l'inverse. Le chaman est quelqu'un dont la vocation a souvent été déterminée par des consultations avec le devin. Mais le chaman se présente beaucoup plus comme quelqu'un qui a choisi sa vocation, soit parce que il se sentait une attirance particulière pour cette vocation-là, soit parce que héréditairement, il faisait partie d'une famille de chamans, mais le chaman est un individu qui est souvent en position de prépondérance et d'initiative vis-à-vis du groupe. C'est lui qui détermine l'ordre du rituel, c'est lui qui intervient à titre personnel dans la guérison d'une personne ou d'une autre, et c'est lui qui règle toute la mise en scène dont il a besoin, parce que mise en scène, il y a dans le chamanisme comme dans la possession, la transe étant dans les deux cas un phénomène essentiellement théâtral. Alors, le chaman, lui, a besoin de l'appui, de la collaboration musicale de son assistant. En général, un chaman a un assistant, de telle manière que lorsque le chaman est en transe, ce soit l'assistant qui le relaye dans l'action musicale, mais toujours, c'est le chaman, lui, qui rentre en transe en faisant sa propre musique et en réglant son propre imaginaire et en entraînant le groupe par sa musique et non pas en subissant la musique du groupe. Et à ces deux imaginaires différents, le chaman comme changement de monde et le possédé comme changement d'identité, le chaman comme prenant l'initiative de se rendre dans un autre monde, le possédé comme subissant l'envahissement par un dieu, à cette grande opposition d'imaginaire religieux correspond une grande opposition de conduite musicale, le chaman étant le musicant, celui qui est actif du point de vue de la musique, le possédé étant le musiqué, celui qui est agi par la musique, qui subit la musique et non pas qui la fait. Mais la grande distinction à faire, à mon avis, pour ce qui est des relations de la musique et de la transe, et qui est celle qui régit l'opposition entre possession et chamanisme, c'est que dans la possession, il y a d'une part un coefficient culturel qui joue très fortement, mais vraisemblablement aussi une donnée émotionnelle, la musique étant quelque chose qui a un pouvoir émotionnel évident et universel, tandis que dans le chamanisme, la musique est liée beaucoup plus étroitement à la technique du corps. Je dirais que le chaman est quelqu'un qui, en faisant de la musique, en étant musicant, pratique un certain ascétisme musical, et c'est tout à fait frappant chez les soufis dont nous parlions tout à l'heure. Le dhikr, la grande cérémonie soufie qui est axée autour de la remémoration du nom d'Allah, qui est le fait même du dhikr, mot qui veut dire se remémorer, eh bien le dhikr consiste dans un exercice de récitation rythmée du nom d'Allah ou d'un certain nombre d'autres mots en rapport direct avec la représentation d'Allah. Et cette récitation rythmée est une technique du souffle et une technique du corps qui est destinée manifestement à susciter chez la personne qui recherche la transe des bouleversements neurophysiologiques qui sont en rapport avec la respiration, avec la dépense physique d'une danse extrêmement épuisante physiquement, et aussi une espèce d'exaltation collective. Le dhikr étant toujours une manifestation qui se fait à plusieurs. Et là, la musique, dans cette combinatoire-là, qui est particulière au dhikr, la musique agit de manière physiologique, en ce sens qu'elle est à la fois exercice des cordes vocales, exercice de la respiration et danse. Mais la dimension dansée est aussi importante, en définitive, dans cet exercice du dhikr, qui ne donne pas lieu du tout à une identification avec le Dieu, bien entendu, que dans les phénomènes de possession, où au contraire, il y a identification avec le Dieu. Il est bien clair que le soufi, lorsqu'il se remémore le nom d'Allah et à la fois se rappelle à Allah en prononçant son nom, ne s'identifie en aucun cas avec le Dieu. Et sa transe consiste en une espèce de communion avec la divinité, mais pas du tout en une identification. Encore que là, à nouveau, on doive tenir compte du fait qu'un des plus célèbres soufis, Al-Hajj, qui a été tant étudié par Massignon, avait des transes de communion, des transes communielles, qui étaient bien proches de l'identification avec le Dieu, et finalement de la possession. Et ça lui a coûté fort cher, puisque, comme vous savez, il a été crucifié la tête en bas, et son mysticisme était considéré comme tout à fait hétérodoxe par les autorités musulmanes de son époque. N'en reste pas moins que, en règle générale, le soufi qui s'adonne au dhikr ne s'identifie pas à Dieu, à une transe que j'appellerais communielle et non pas de possession, et qu'il est le musicant de sa propre entrée en transe, ce qui le mettrait du côté du chamanisme et pas de la possession. Il est musicant de sa propre entrée en transe parce qu'il est essentiel pour lui de réciter le nom d'Allah en le scandant très fortement et avec une technique vocale qui a un nom très particulier, puisque on l'appelle très souvent le dhikr de la scie. C'est le terme même qu'utilisent certains auteurs arabes en parlant de cette forme de dhikr, où la respiration est extrêmement rauque, alternée, et ressemble au mouvement alternatif d'une scie. Et on s'est posé la question de savoir si une technique vocale semblable ne provoquait pas au niveau des cordes vocales des perturbations neurologiques qui seraient susceptibles d'expliquer les phénomènes de transe très violente qui marquent ce genre de transe-là. Bien sûr, c'est une hypothèse. Moi, personnellement, je n'en ai pas l'expérience. Ce que je note une fois de plus, c'est que dans un même groupe, on voit des hommes se livrer à des agitations corporelles et à des performances vocales au moins aussi frénétiques que d'autres. Et certains tombent en transe, d'autres ne tombent pas en transe. Ce qui donne à penser que là aussi, le phénomène de transe doit être vu dans une situation globale, ne doit pas être ramené à une pure et simple action physique, non pas des sons cette fois-ci, mais de l'exercice de la musique, puisque on voit bien que dans le même contexte, les uns entrent en transe, les autres n'y rentrent pas. C'est donc qu'il y a une situation globale qui chez les uns détermine une certaine conduite et chez les autres ne la détermine pas. Et cette situation globale est en rapport très souvent précisément avec le fait que l'adepte est un adepte très aguerri, maîtrisant beaucoup sa transe, ou au contraire un adepte tout jeune, ne sachant pas encore la maîtriser. Et dans ce grand traité sur les relations de la musique et la transe, qui a été écrit par le célèbre soufi Razali au début du XIIe siècle, il est souvent question de savoir maîtriser sa transe précisément. Razali indique que la maîtrise de la transe est tout à fait essentielle et qu'on ne doit s'abandonner à la transe que lorsqu'elle est véritablement beaucoup plus forte qu'elle vous emporte. Et Razali a toute une théorie, lui aussi, des relations de la musique et de la transe qui est extrêmement intéressante et qui, elle aussi, prend en compte très fortement les données culturelles, je dirais. Pour lui, l'action de la musique est peut-être en partie physique. Il en fait l'hypothèse notamment en rappelant que les chameaux peuvent entrer en transe en entendant les chants de leurs chameliers, et que les chameaux deviennent la proie de cette excitation musicale qu'on appelle le tarab chez les Arabes, et que les chameaux sont capables de mourir en étant complètement affolés par le chant de leur caravanier, mourir en courant si vite qu'ils se tuent. Et Al-Razali remarque que les chameaux étant, dit-il, dénués d'entendement, c'est bien l'action physique de la musique qui les met en transe. Mais il ajoute que dans la transe religieuse, c'est non pas du tout l'action physique des sons qui est en cause, mais au contraire, la communion avec Dieu par suite d'une rencontre, et c'est le mot rencontre qui est, c'est l'idée de rencontre qui est à l'origine du mot même qui désigne la transe religieuse chez les Arabes, le wajd. Cette rencontre avec Dieu est en rapport avec la signification des mots qu'on entend, et ce n'est pas en tant qu'impact physique qu'agit la musique, mais au contraire en tant que message s'adressant à l'intelligence du cœur et à l'intelligence de la divinité, faisant prendre conscience de la réalité suprême de la divinité, révélant la divinité à l'adepte que la musique agit. La musique est donc, là encore, en rapport avec le sens, la musique agit comme signe, comme le disait Rousseau, beaucoup plus que comme phénomène physique.
Musique et possession. Roland Auguet, Gilbert Rouget. Avec la voix de Claude Berman. Musique du Musée de l'Homme. Prise de son, Michel Mirou. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Christiane Mallarmé. Livre, Musique et possession, Gilbert Rouget, édition Gallimard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mars 1980. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.